Et avec Tommy Chouinard. Bonjour, Tommy.
Bonjour, Louis.
On va parler un peu de masques. Ça va avoir pris à peu près 3 mois de tergiversation, mais finalement, Québec va annoncer ce matin le port du masque dans les transports en commun.
Exact. La mesure va entrer en vigueur dans environ 2 semaines. Et s'il y a un mot qui résume assez bien la réaction de toute la classe politique au sujet de cette annonce, c'est enfin. Enfin, ouais. Parce que pour ce qui est des transports en commun, je me souviens le 13 mai, le Parti québécois avait le premier fait la demande de rendre ça obligatoire dans les transports en commun, à tout le moins à Montréal, de mémoire. Le Parti libéral avait également emboîté le pas en parlant de l'obligation du port du masque dans l'ensemble des transports en commun au Québec. Et là, il y a eu beaucoup de tergiversations au sujet du port du masque. On le sait, Louis, je pense que tu peux avoir le crédit d'être celui qui a posé le plus de questions sur le port du masque.
Je suis le premier qui en a posé, entre autres choses. Oui. Je peux même te donner la date, c'était le 6 avril. Et j'avais posé la question au Dr Arruda qui nous avait dit « Ouais, mais il n'y a pas d'études scientifiques sur le port du masque », alors que l'INSPQ en avait fait une.
Oui.
Et puis, vas-y.
Et non seulement ça, mais il y a quand même, faut reconnaître que l'OMS recommande fortement là, le port du masque et que il y a eu des sorties aussi successives là, au Québec là, d'experts qui disaient il faut absolument arriver à non seulement recommander, mais obliger le port du masque. C'est pour faire de la prévention. Mm-hmm. Puis là-dessus, hein, il y a eu une évolution dans le discours du gouvernement au départ, et en particulier du docteur Horacio Arruda. Au départ, vous savez, encore aujourd'hui, il se défend d'avoir dit qu'il était contre le port du masque, mais au départ, il disait ben on recommande pas ça, le port du masque, parce que les gens, bon, ils vont porter tout croche. Mm-hmm. Il y avait ça. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait
l'aspect légal.
L'aspect légal, oui, on nous avait sorti l'histoire de la Charte des droits et libertés.
Ben oui.
On nous avait dit aussi que ça va donner un faux sentiment de sécurité aux gens. Là, les gens vont penser qu'en portant le masque, ils deviennent Superman. Y avait ça aussi. Et François Legault avait également évoqué, je me souviens à la mi-mai, qu'il n'y avait pas assez de masques disponibles pour le rendre obligatoire. Mais il y a une chose qui a été dite par François Legault, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, qui est intéressante. Quand on l'avait questionné précisément sur l'obligation de porter le masque dans les transports en commun, il avait dit « Ouais, mais là, la santé publique, nous, on suit l'avis de la santé publique. La santé publique ne le recommande pas, on ne suit pas. » Puis là, il avait ajouté ceci, il avait dit « ça. Il y a aussi le fait que ça prend des pénalités, une police pour l'appliquer. » Je comprends, c'est que rendre obligatoire, ça suppose des pénalités, ça suppose d'avoir une police qui va vérifier tout ça.
Mais il n'y en aura pas.
Ben,
en tout cas,
apparemment pas. En tout cas, à tout le moins, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a bien placé son message, je pense, en disant il n'est pas question qu'on demande aux agents de la STM, de la Société de transport de Montréal, forcer les gens à porter le masque et de distribuer des amendes là, aux gens qui ne le respectent pas. Bon, à ce stade-ci, dans les sociétés de transport, on dit qu'il y a à peu près 40 à 50 des usagers qui portent le masque.
Ouais.
Est-ce que on peut dire que c'est devenu la norme sociale que souhaitait le docteur Arruda, hein? C'était l'expression qu'il utilisait. Donc, ce stade-ci.
Moi, ce qu'on m'a expliqué hier, c'est que, entre autres, la raison pour laquelle on l'impose maintenant, c'est qu'on veut préparer les gens à la deuxième vague qui pourrait arriver à l'automne. C'est-à-dire de dire, mais là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde dans les transports en commun. D'une part, à cause que l'économie est au ralenti, même aujourd'hui, même si on a fait la réouverture en raison de COVID-19. Pas tout le monde qui a retrouvé son emploi. Ou encore, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, donc il y a moins de pression sur les transports en commun. Et de toute façon, naturellement, l'été, il y a moins de gens dans les transports en commun. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est allons-y maintenant, essayons d'habituer les gens pour ce qui s'en vient à l'automne avec la deuxième vague, plutôt que d'imposer ça tout d'un coup rendu là. T'sais.
Ben oui, parce qu'en septembre, il va arriver quoi? Il va arriver la rentrée, cégep, université. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le transport en commun chez les étudiants. Donc, il faut s'y mettre et préparer. C'est toujours, effectivement, tu as raison, le gouvernement... j'avais des signaux à ce sujet-là hier également, qu'on se prépare pour la deuxième vague. Donc, il faut commencer à habituer les gens dans un contexte, au port du masque, dans un contexte où la distanciation physique est difficile. On s'entend que dans le métro, là, quand ça va être à la rentrée, on est un peu en classe sardine, là, parfois, là. Donc, il faut agir à ce sujet-là. Les sociétés de transport évaluent, hein, différents scénarios pour s'assurer que les gens portent le masque. On parle, il va y avoir une distribution, là, de masques, là, je pense qu'il y a 1,5 million de masques là, qui devraient être distribués gratuitement là, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation là, dans les sociétés de transport de la grande région de Montréal. Et il y aurait une possibilité aussi d'installer des machines distributrices.
Pour les gens qui pourraient, qui l'ont oublié ou qui peuvent pas...
Exactement. Donc, plutôt que de refuser totalement l'accès aux gens, on suggérait fortement donc de s'en procurer un. Donc, il y a quand même des mesures qui sont prises. Je pense qu'à Toronto, ça commence, l'obligation commence le 2 juillet de mémoire. Ouais. Donc, quand même, on s'inscrit, il y a un mouvement là pour... Ouais. Pour tenter de justement d'imposer le masque.
Oui. Bon, et soit dit en passant, la conférence de presse sera diffusée en direct sur nos ondes à 11h ce matin là pour justement informer les Québécois. Bon, là, il y a une rencontre qui n'était pas prévue entre François Legault et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Ça va se passer demain à Montréal.
Ça va se passer jeudi à Montréal,
jeudi,
donc ça
ne
se passera pas la journée de la fête du Canada. Donc, le premier du Québec ne va pas rencontrer le jour de la fête du Canada le chef du Bloc québécois.
Non, ça aurait été mal vu.
C'est le lendemain.
C'est le lendemain.
OK. Donc, effectivement, c'est la première rencontre entre les deux hommes depuis les élections fédérales de la fin octobre. On l'a un peu oublié, mais ça s'est bousculé. Hein. À Ottawa, c'est la Chambre a siégé. Il y a eu la crise ferroviaire ensuite. Et puis maintenant, la pandémie. Donc, François Legault avait donc une première fois rencontré, après les élections, Justin Trudeau en décembre. Et là, cette fois, c'est avec Yves-François Blanchette, jeudi. C'est le genre de rencontre où chaque parti y trouve son intérêt. Un, évidemment, François Legault a un certain nombre de griefs avec Justin Trudeau.
Oui.
Donc, avoir un allié comme Yves-François Blanchette qui... Souligne-t-on à Québec, a eu des interventions qui ont été constructives depuis plusieurs semaines. C'est utile pour François Legault d'avoir cet allié-là, mais c'est pas non plus un message qui est envoyé à Justin Trudeau comme quoi le gouvernement du Québec est en train, comme on dit, de casser la table de négociation. On espère toujours avoir gain de cause concernant différents griefs. Donc,
notamment les transferts en santé, là, qui sont
notamment
vraiment...
les transferts en santé, parce que là, ça, il faut revenir sur le 14 milliards là qu'on présente comme étant un transfert aux provinces. Là, une fois qu'on élimine ce qui est achat de masques et tout ça, là, ce qui est déjà pas mal lié à certaines mesures, il reste 3-4 milliards pour les provinces. Le gouvernement fédéral veut imposer toutes sortes de conditions pour des normes dans les CHSLD, sur la stratégie de dépistage. Pour les transferts en santé, c'était 500 millions qui a été annoncé au début de la pandémie. Donc là, il y a vraiment, puis on sent que les provinces veulent revenir à ces revendications-là et plus fortement au sujet des transferts. Quant à Yves-François Blanchette, lui, c'est quoi son intérêt là-dedans? C'est évidemment d'envoyer un petit message à Justin Trudeau en se présentant comme un joueur qui compte au moment où le gouvernement à Ottawa est minoritaire.
Oui.
Puis on se cachera pas non plus que pour Yves-François Blanchette de se présenter aux côtés de François Legault, qui a quand même un bon taux de satisfaction et tout ça, c'est pas mauvais non plus.
Non, c'est ça, parce que depuis la dernière campagne électorale, ils sont véritablement collés sur la CAQ, là.
Exactement. Donc, pourquoi modifier une recette qui semble avoir quand même fonctionné? Puis, dans ce contexte-là, là, Yves-François Blanchette veut tenter de tirer son épingle du jeu, d'autant que il y a une course à la direction au Parti conservateur.
Oui.
Puis bon, la place au Québec du NPD, évidemment, c'est un parti qui est beaucoup moins présent.
Oui.
Donc, il y a un intérêt pour lui. La liste des griefs, il y en a quand même beaucoup, mais à Québec, on dit on a encore espoir d'obtenir gain de cause, que ce soit au sujet du transfert de 14 milliards. Bon, les transferts en santé, ça va être du gros travail, mais il y a l'histoire de la PCU aussi. Là. La PCU au gouvernement du Québec, pour certains secteurs, c'est dévastateur pour la relance.
Exact.
On peut dire que c'est utile, la PCU, pour le secteur.
Ouais, sauf que la PCU, elle a une date d'expiration qui est la fin du mois d'août.
Aussi. Puis, gros enjeu qui va s'en venir aussi, toujours les infrastructures.
Ouais.
Problème avec les enveloppes qui sont pas flexibles, alors que le gouvernement du Québec souhaite développer des projets de transport collectif dans plusieurs villes. Donc, il y a des règles qui n'aident pas vraiment là, le plan du gouvernement du Québec. Donc, ça va être discuté entre les deux hommes, certainement.
Monsieur Chouinard, merci beaucoup. On se reparle jeudi.